Dominique est professeur à Sciences Po. Il travaille dans le Media Lab de Bruno Latour, que vous connaissez peut-être. Hein. L'année passée, Frédéric Haït-Touati, qui travaille également avec lui, était venu nous parler dans le cadre du cycle sur les communs. Et donc, le travail de Dominique se centre sur cette réflexion sur le numérique, comment il transforme la société, mais comment aussi il peut nous aider à connaître cette société. Et Dominique a toute une série d'autres types de recherches. Il vient de publier récemment un travail sur le Téléthon et ce que ça dit sur le fond de nos sociétés. J'ai entendu récemment un podcast de France Culture sur son livre qui était tout à fait passionnant. Enfin, voilà, il y a plein de choses donc à nous dire. Ce sera, comme d'habitude, une présentation tout à fait libre et un débat qui le sera aussi. Nous aurons par ailleurs, le 28 février, Hugues Bersigny, qui est en plus avec nous ce soir. Hugues, tu peux... voilà, il est là. Hugues, professeur à l'ULB, qui va publier un livre qui sortira à la fin du mois, qui est Big Brother is Driving You. Mais le titre est en anglais, mais le livre est en français, je pense. Hein. peut-être qu'il aura l'occasion pendant le débat d'aborder un peu certaines des questions que nous aborderons avec lui. Et puis, en mars, nous aurons Antoinette Rouvroy, qui est spécialisée dans tout ce qui est la gouvernementalité du numérique, qui travaille également avec Dominique et avec Thomas Berns, que vous connaissez peut-être aussi, puisqu'il a été aussi l'un des orateurs de philosophie et management il y a quelques années. Voilà. Dominique, la parole est à toi. Merci d'être avec nous ce soir. Bonne soirée à tous.
Merci. C'est compliqué d'être là. Hein. C'est bien. C'est un peu intimidant. Surtout, ce qu'on a discuté avec Florent, là, c'est l'idée que je parle un peu pendant, pendant une heure et puis on débat. Ce qui m'intéresse, c'est le débat dans cette affaire. Moi, je suis sociologue. Hein, et pas philosophe. Alors c'est compliqué d'insister là-dessus, du coup j'espère que je ne vais pas trop décevoir des attentes. Et j'aime beaucoup les philosophes, je lis beaucoup de philosophie, c'est très intéressant, mais le travail dont je vais vous parler, c'est un travail d'enquête. C'est-à-dire, parce qu'on en parle partout, et je pense que d'ailleurs si vous avez mis les algorithmes comme sujet cette année, c'est parce que on en parle partout. Je trouve que c'est très bien qu'on en parle, mais. Vous allez voir dans mon discours ce qu'on en dit publiquement et puis ce qu'on voit dans les labos et puis dans les trucs un peu concrets. Il y a un décalage énorme. Alors, ça ne surprend pas un sociologue. Hein. C'est-à-dire le fait qu'une technologie, mais vous connaissez ça, ait besoin de ce vent, qu'elle ait besoin de prophètes, qu'elle ait besoin d'une sorte d'Hollywood, de gens qui partout agitent le drapeau, intelligence artificielle, big data, etc. C'est une nécessité économique, d'une certaine manière, pour faire vivre ce secteur. Le problème, c'est qu'il y a un grand décalage entre ce qui est dit et puis ce que font les machines. Je ne sais pas si vous avez utilisé récemment Siri, qui est quand même le sommet de l'intelligence artificielle. Enfin, vu d'Apple, ils ne sont pas très bons d'intelligence artificielle. C'est pas leur domaine. D'ailleurs, enfin, bon, on voit bien que la machine n'est quand même pas très intelligente hein, et qu'on c'est pas gagné, voilà, cette histoire. Alors, ce que je voudrais essayer de venir, c'est d'essayer de vous proposer comme ça une petite exploration qui est l'argument moi, que j'essaie de faire tenir dans l'ouvrage de qu'est-ce que ça pourrait être un regard sociologique sur cette nouvelle réalité qui est en train d'arriver, mais en essayant de la prendre avec cette sorte de réalisme, hein, de l'enquête aussi du sociologue pour pas tomber dans tous les panneaux. Je pense qu'il y a beaucoup de panneaux, mais on en discutera peut-être sur l'intelligence artificielle tout à l'heure. Alors, quelle est l'idée initiale? L'idée initiale, c'est qu'on est entré dans un monde de calcul, que les calculs sont partout, bon, vous connaissez ça, hein, on est mesuré, on est tracé, les big data sont en train de constituer un nouvel univers de traces absolument sidérant, et finalement... Le premier point de mon entrée dans la question, c'est de dire le fait que les données soient partout, un historien des sciences n'est pas surpris. Un météorologue, par exemple, n'est pas surpris. Pour lui, il n'y a pas de nouveauté big data. Hein, ça fait, ils ont mis un siècle à réunir les données de l'océan et de l'atmosphère pour améliorer la prédiction météorologique. Mais c'est un travail sur les données et elles sont absolument énormes. Le fait que le numérique amène des nouvelles données est incontestable, la courbe, vous connaissez les chiffres, est absolument prodigieuse, mais le fait qu'on traite des big data, bon, pas sûr que la nouveauté soit absolue dans ce domaine-là. En fait, il y a quelques propriétés des nouvelles données numériques qui sont essentielles, mais je ne vais pas entrer dans ce débat. Alors, l'autre, du coup, la question moi, que je me suis posée, enfin, qui me semblait intéressante, c'est de dire, il y a des données, mais les données, elles ne veulent rien dire si elles ne sont pas calculées. Et ce qui est au cœur, en fait, de la pertinence, de la performance, de l'utilisabilité de ces technologies, c'est d'arriver à poser sur les données un calculateur qui extrait de ce bruit, parce que ces données massives, c'est du bruit, principalement. Elles sont sales, elles sont mal catégorisées, on n'en tire rien, les corrélations sont très basses, c'est des matrices creuses, enfin, les statisticiens pourraient faire des descriptions interminables du fait que, quand on est vraiment un travailleur de la donnée, on passe 95% de son temps à nettoyer des données absolument inutilisables. Il faut trouver le signal dans ce bruit. Et trouver le signal dans ce bruit, c'est mettre en place un calcul qui va arriver à extraire de la diversité des catégories et des données, qui va arriver à extraire un signal qui fasse sens. Et dans le type de sociologie, des techniques auxquelles moi je suis attaché, c'est cette idée que un calcul ne calcule vraiment que quand il produit quelque chose qui est signifiant, qui va épouser la société. Gilbert Simondon, grand philosophe de technique, disait qu'il fallait que l'objet technique se concrétisant, il épouse son milieu, c'est-à-dire qu'il transforme le milieu dans lequel il est posé. Alors, je crois, pour le dire rapidement, mais dans une formule comme ça, que tout le débat sur les big data, c'est des calculs dans le vide. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas rencontré leur milieu. Et les brosses à dents qui tweetent ou les balances qui tweetent, on voit bien qu'elles n'ont pas rencontré le milieu. Alors le milieu pour un sociologue, c'est des gens qui l'utilisent, des gens pour lesquels ça offre une expérience absolument centrale qui font qu'ils vont s'attacher à cet objet va redéfinir leur environnement et que cet environnement transformé va recréer une manière de se définir soi-même et de définir aussi l'environnement dans lequel l'objet s'est installé. Bon, il y a beaucoup de promesses des big data qui sont comme ça, des chimères calculatoires qui, pour l'instant, n'ont jamais épousé des pratiques sociales, des expériences utilisateurs, des formes de vie, des idées relationnelles et toutes ces choses qui font que les technologies nous transforment dans cette manière de les apprivoiser, de les épouser, de s'articuler avec elles, qui est au cœur du travail, me semble, enfin, qui intéresse le sociologue des sciences et des techniques. Alors, l'objet moi, de mon enquête, c'était de se dire, bon, il y a quand même, dans ces techniques calculatoires, il y a des endroits où il y a des calculateurs qui ont profondément transformé leur milieu, qui ont profondément modifié l'écosystème dans lequel ils se sont installés, et dans l'histoire du web, on peut essayer de les décrire. Donc moi, c'est l'exercice très simple et pédagogique que j'ai essayé de faire, parce que vraiment, c'est pas un travail de chercheur, enfin, c'est une synthèse de travail de recherche, mais c'était plutôt une idée pédagogique de se dire un calculateur, donc calculateur ou algorithme, un calculateur est produit par des ingénieurs qui ont des intentions. Et ces intentions, on les confie à l'objet qu'on est en train de concevoir. Et donc une grande partie du travail de la sociologie des sciences et des techniques, ou de l'anthropologie des sciences et des techniques, c'est d'essayer de montrer que derrière les techniques les plus froides, les choses les plus rationnelles, les documents plus techniquement arides et d'apparence abstraite, se glissent les valeurs sociales, culturelles, morales, politiques d'une société qui, à travers ceux qui l'ont conçu, vont engrammer à l'intérieur de ces objets techniques quelque chose de la société, quelque chose d'une vision du monde, quelque chose d'une représentation de la société qui va être glissée dans le calcul. Et l'exercice auquel je vais me livrer, là, rapidement, c'est précisément d'essayer de décoder ces principes qui ont été enfermés dans des formes de calcul. Alors, ça pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que c'est une manière de critiquer les calculs. Hein, c'est une manière de ne pas considérer comme le fait. Parfois, une certaine philosophie heideggerienne, on dirait post-heideggerienne, mais une mauvaise philosophie post-heideggerienne, hein, la froide rationalité de la technique, et puis à côté, l'humain, le berger de l'être, qu'il faut protéger contre la rationalité du calcul. Bon, vous connaissez ce débat très classique, mais dans lequel on considère que le calcul, c'est une seule chose. Hein, il n'a qu'une seule manière de fonctionner, il est utilitaire, efficace, il rationalise. Or, on peut faire à des calculs plein de choses très différentes. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans l'histoire des calculateurs numériques, c'est précisément, pour bien déconstruire cette idée du calcul, de montrer qu'on peut calculer, on peut faire calculer des choses très différentes à ces objets. Alors j'ai une métaphore qui marche bien pour essayer de décliner ce programme, qui est la démocratie et le système électoral. C'est-à-dire que le choix du système électoral, alors, je ne sais pas si en Belgique, ça a traversé les frontières, mais en sciences politiques, il y a des lois qu'on apprend en première année de droit constitutionnel ou de sciences politiques, on appelle les lois de Duverger. Ça vous dit quelque chose, ça, les lois de Duverger, hein? Que Maurice Duverger, c'était un grand constitutionnaliste français. Voilà. Alors, les lois de Duverger, c'était un truc très juste, c'est de dire, alors il ne le disait pas comme ça, mais je vais le retraduire. Il disait, un système électoral, on pourrait dire, c'est un algorithme. On a des urnes. On a des bulletins de vote en entrée, on a un système électoral et on a en sortie des députés. Hein, donc c'est vraiment le modèle de l'algorithme, un système d'instruction qui fait un calcul et qui produit un résultat. Bon, normalement dans l'algorithme on mesure l'efficacité du résultat à la fin, là, je suis pas sûr qu'on le mesure tout à fait en démocratie, mais on a le dispositif système électoral égal algorithme. Et la loi du Verger, elle dit système uninominal à un tour, à l'anglaise, ça produit un système bipartisan. Système uninominal à deux tours, les députés en France, ça produit un système avec quatre partis. Bon, là, on est à... Pas exactement ça, mais en fait, ça fonctionne quand même plutôt bien. Proportionnel, on publie un espace politique qui est complètement éclaté, avec des gens qui font des alliances avant les élections, qui ne sont pas nécessairement les alliances après les élections. Donc, le calculateur, selon le système électoral qu'on a choisi, on produit une société, un monde, selon un principe, qui va ensuite façonner un milieu dans lequel vont vivre des Anglais ou des Israéliens, pour prendre proportionnel et scrutin uninominal à un tour, pour lequel la vie politique est designée de façon radicalement différente par le calculateur. Hein, pour un Anglais, il y a deux parties, puis il y a toujours un troisième qui essaie, mais qui n'arrive jamais. C'est consubstantiel à la vie politique anglaise, la manière de se rapporter à la politique, la manière d'écouter les hommes politiques, la manière de regarder l'organisation bipartisane de l'offre politique est structurée par ce calculateur. Il a donc le choix du système électoral, produit ensuite un milieu dans lequel nous naviguons sans y penser, mais qui a été complètement structuré par le calcul qui a été mis en place. Et on pourrait tenir le même raisonnement pour les Israéliens. Alors moi, il me semble, et c'est ce que j'ai essayé de faire, mais je vais vous le faire très rapidement, que dans l'histoire du web, on peut retracer ou essayer d'examiner les manières de calculer l'information et de la classer. Et c'est, moi, c'est pour d'autres raisons, ce qui m'intéresse depuis très longtemps, qui est la structure de l'espace public, comment on hiérarchise l'information, comment on la classe, comment on y accède. Des techniques de calcul et de mesure se sont mises en place et proposent des représentations désirables du bon ordre de l'information que les ingénieurs ont glissées dans le calculateur, qui ont des formes très très variées et très différentes. Et que si on sait regarder ces principes, ben ensuite, on peut débattre politiquement des algorithmes. C'est-à-dire, on peut débattre du calcul qui est le plus désirable pour une société. Ah, et alors, dans le modèle, mais je ne vais pas vous le refaire, que j'ai fait, qui est à la fois trop grossier pour être vrai, mais en même temps pas complètement faux, hein, on pourrait dire comme ça, c'est de dire que quatre manières différentes de le faire. Il y en a une qui vient traditionnellement de l'histoire des médias, qui est mesurer la popularité. Ça, c'est un thème très très classique. La popularité, on compte le nombre de clics et on les additionne. Et on met au centre de la visibilité publique, et c'est le même centre pour tous les internautes, on pourrait dire d'une communauté linguistique ou nationale, on met au centre les sites web qui ont été le plus cliqués par des internautes qui sont tous égaux entre eux, parce que le clic vaut pour un clic. Tous les clics se valent. Donc il y a quelque chose de démocratique dans cette idée de la popularité. Bon, le marché publicitaire, c'est adossé. Une partie du marché publicitaire numérique, c'est adossé sur ce principe. La grande innovation de l'Internet, alors je pourrais passer des heures là-dessus, donc je vais m'auto-limiter très très vite, c'est d'inventer une autre manière de classer l'information, voilà, qui a joué un rôle central, qui est de calculer non pas la popularité, mais l'autorité. Alors je sais que c'est un argument un peu compliqué à soutenir, mais c'est ce qu'a fait Google. C'est ce qu'ont fait Sergey Brin, Larry Page, en 1998, quand ils ont... créer une vraie rupture technologique dans l'histoire des moteurs de recherche en disant on ne va pas faire un moteur qui va regarder le nombre. Hein, vous savez qu'avant, certains d'entre vous se souviennent d'Altavista et Lycos, qui était un moteur assez imparfait. Ils mettaient en premier de la liste les sites qui avaient le plus de fois dans leur contenu le mot-clé que vous aviez mis. Si vous aviez mis vélo, et s'il y a un site qui a 53 fois vélo, il va être avant le site qui a 52 fois vélo. Donc bon, c'était un peu idiot. Hein, comme système. Et Brin et Page vont venir avec une idée très forte, pas entièrement originale parce qu'ils la reprennent à Eugène Garfield, qui est de dire on va faire une approximation calculée de l'autorité, de la qualité, on va dire même, d'un site, en fonction du nombre de fois où il a été cité par d'autres sites, dont on vérifie en même temps combien de fois ils ont été cités par d'autres sites de façon récursive, etc., etc., etc. Ça s'appelle le PageRank. C'est l'idée, vous savez que les chercheurs sont évalués comme ça, donc ils ont repris cette idée de Eugène Garfield dans les années 60, qui est tout simplement l'idée que la note en bas de page, c'est l'endroit où la science se fait, où, c'est l'endroit où le chercheur paye ses dettes à la communauté scientifique. Pour produire ce résultat scientifique, j'ai eu besoin des résultats d'un tel et d'un tel, et il y a une sorte de contrainte morale qui s'exerce sur la communauté, qui est qu'on doit citer les travaux antécédents. Du travail qui ont été faits. C'est cette idée qu'ont repris Sergey Brin et Larry Page pour dire un site web est bien classé s'il a reçu des liens hypertextes d'autres sites web qui ont eux-mêmes reçu beaucoup de liens hypertextes, etc., etc. C'est une mesure fondamentalement méritocratique. Tous les votes, puisqu'un lien hypertexte devient un vote, ne se valent pas. Il y a une inégalité absolument centrale. Le fait d'être cité par Le Soir ne vaut pas le même jus de lien que le fait d'être cité par le blog de ma petite cousine, etc. Donc on voit bien qu'il y a des inégalités absolument centrales qui vont se jouer dans ces citations. L'algorithme compte le nombre de citations et classe les informations, la version simple hein, de l'algorithme, mais c'est la version toujours centrale, en fait, hein, l'air de rien, de l'algorithme, et considère que la meilleure information est celle qui a reçu le plus de reconnaissance. Reconnaissance valant signal d'autorité. Que l'on dise du bien ou que l'on dise du mal n'est pas important, l'important c'est de calculer cette mesure. Alors, c'est une mesure qui a joué un rôle très central. Je ne vais pas détailler, je pourrais être interminable là-dessus. Mais je voudrais juste dire une chose, c'est que du point de vue de son épistémologie, c'est une mesure qui est typique de Google, qui a incorporé tout le scientisme, cette forme de positivisme instrumental hein, qui est chez Google, qui est cette idée que le rêve secret de l'algorithme, j'ai beaucoup écrit là-dessus, c'est de se mettre au-dessus des internautes et puis de mesurer les liens qui s'échangent entre eux, surtout sans que les internautes n'agissent en fonction de l'algorithme qui les observe. Alors c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que ça va être très important pour la suite. Hein. C'est que le rêve de Google, c'est le rêve du naturalisme du 19e siècle, celui du microscope, c'est que le microscope ne doit pas agir sur le milieu qu'il regarde. Hein. C'est qu'il faut que l'instrument soit l'instrument qui permet aux chercheurs d'accéder au réel, à la nature, mais il ne faut pas que la nature soit affectée en rien par l'instrument qui est en train de le mesurer, principe dont on sait qu'il a été fortement critiqué, et dont on sait que pour Google, que c'est un rêve un peu naïf, parce qu'évidemment, les webmasters, quand ils ont compris qu'un site était bien classé parce qu'il avait reçu beaucoup de liens hypertextes, ils vont déployer une énergie, vous n'imaginez pas, hein, une énergie, une inventivité, une créativité, et puis un marché absolument énorme, hein, on appelle marché du référencement, hein, pour créer des liens hypertextes vers leur propre site, mais en inventant les sites qui les citent. Ah, donc on me dit qu'il devait y avoir la même chose. Au 19e siècle, en France, on avait des actrices au théâtre qui payaient des étudiants pour se faire applaudir pendant un spectacle. C'est exactement ça ce que font les webmasters. Hein. C'est qu'on crée des faux sites où on va mettre des liens sur les sites des autres vers soi-même pour essayer de remonter dans le classement. Ça fait 15 ans que c'est un jeu de chat et de la souris. Parce que Google considère que ce lien-là, qui a été fait de façon stratégique, n'est pas naturel. Lui, il cherche à mesurer de l'autorité. Donc on voit bien que dans le calcul, ce que l'algorithme essaye de faire, c'est de mesurer un endroit où il y a bien de la citation qui vaut comme de la reconnaissance et de l'autorité, et de déqualifier Google, Panda, Pingouin, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'algorithme, toutes les réformes de l'algorithme sont des réformes qui cherchent à nettoyer le calcul des sites web, des liens hypertextes qui ont été produits de façon stratégique par des OMS qui agissent en fonction de cet œil au-dessus qui voudrait, de façon masquée, en fait, observer le web sans que le web ne se comporte en fonction de celui qui les observe. Bon, ça joue un rôle absolument central. Là, j'en donne une vision positive, mais évidemment, ça a domestiqué l'écriture du web en entier, ça a créé un marché de fraude absolument conséquent, et puis ça a plein d'effets qui peuvent aussi être critiqués. Mais moi, il me semble du coup que c'est en raison de ces problèmes que s'est inventée une troisième manière de représenter l'information sur le web, et qui, elle, ne cherche plus du tout la popularité et l'autorité, mais qui va chercher la réputation. Et c'est le web social qui va arriver, et avec Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, WhatsApp et Snapchat et consorts, et dans lequel on est dans une épistémologie qui n'a plus rien à voir. J'entre pas dans les détails, hein, peut-être que je vais parler d'autre chose, mais le calcul, il est sur la page des utilisateurs. Nombre d'amis, nombre de retweets, taux de viralité. L'idée que le calcul soit au-dessus des données et puis essaye d'objectiver le réel a complètement disparu de ce monde-là. C'est un monde dans lequel on voit directement les effets de ses propres actions sur l'instrument qui les mesure. Et donc c'est une épistémologie qui est là complètement réflexive, c'est-à-dire que le fait d'agir en fonction du calculateur était assez évident, contribue d'ailleurs à domestiquer ou à transformer les subjectivités des utilisateurs. On ne tweet pas le vendredi à 17h, mais le mardi à 11h, parce qu'on aura un taux de retweet supérieur qu'on va le voir sur son propre compteur. Donc l'idée qu'on agisse pour les compteurs devient centrale. Google ne voulait pas qu'on agisse pour les compteurs. Là, on agit pour les compteurs. On agit pour produire sa réputation, et le calcul est complètement associé à l'activité des personnes. Alors ça, d'un point de vue épistémologique, c'est très central, parce qu'on n'est plus du tout dans l'épistémologie de l'objectivation naturelle. On est dans un modèle benchmark. Hein, et moi, je crois beaucoup que tous ces petits compteurs qui sont arrivés partout, ils épousent une transformation qui a été beaucoup observée par les travaux des sociologues discutés ici, apparus dans les années 80, avec, on pourrait dire, les politiques néolibérales, les politiques de la mesure, hein, les politiques des palmarès, des calculs, des compteurs partout dans le monde du travail, dans la vie personnelle des individus, dans les KPI, enfin tous ces outils qui sont des techniques de rationalisation dans lesquelles, si on regarde son épistémologie statistique, il ne s'agit pas du tout de mesurer la réalité. En fait, ces outils ne mesurent jamais la réalité. Ils servent à créer de la compétition entre les individus qui peuvent se comparer. Et surtout, ils servent à challenger les individus pour que, à T plus 1, ils transforment la mesure de T0. Hein? Et donc, on voit bien que la place de la mesure n'est plus du tout cette vision objectivante, mais la mesure devient un outil qui guide les conduites et qui donne à chacun des micro-repères, pas très vrais, mais c'est pas grave, mais des micro-repères pour transformer et orienter ou guider les conduites des individus pour augmenter son viralité, pour avoir de l'influence, pour enfin toutes ces choses qui sont apparues avec le web social. Je n'entre pas dans le débat, mais cette troisième famille, voilà, me semble qualifiable comme ça. Alors, il est apparu un phénomène intrigant et je crois, enfin, auquel moi je me suis beaucoup intéressé, mais pas dans ce livre, là, dans les choses qu'ils vont en train d'écrire. C'est que à partir des années 2007, 2000, voilà, 2008, et dans le monde de la recherche, en tout cas, est arrivée de façon très forte l'idée que bon, le web social, c'est incroyable. C'est-à-dire que tout d'un coup, des conversations, des expressions qui étaient inédites, alors elles n'étaient pas inédites parce que sans doute elles étaient parlées, discutées un peu partout dans la société, mais qu'on ne les voyait pas, tout d'un coup, on pourrait accéder à une sorte d'état de l'opinion sous forme conversationnel, moqueuse, discutant, et puis discutant avec millions de tweets, de statuts, etc., de photos publiées, etc. Et de ces informations, on pourrait extraire quelque chose qui serait un signal nous permettant de prédire des événements, nous permettant de deviner des états d'opinion, nous permettant de, éventuellement, ça n'a pas longtemps résisté au fait, mais et certains ont pensé que ça pouvait se substituer éventuellement au sondage d'opinion, des choses comme ça. Et si je vais vite, alors évidemment, ce serait discutable ce que je vais dire, mais si je vais vite, maintenant on sait que tout ça ne marche pas. Voilà, hein, et que l'air de rien, Le fait que les gens s'expriment, ces données qui arrivent de partout, on essaye de les calculer pour en faire des outils prédictifs, et on n'y arrive pas. Hein, alors, je vais vite, parce qu'il y a peut-être des choses qui peuvent marcher, mais on n'arrive pas à prédire les résultats des élections, ça, j'ai beaucoup d'expériences qui l'ont montré. Il y a eu une très belle étude sur le référendum écossais sur l'indépendance. Et vous voyez, ce qui vous donne statistiquement le problème, hein, c'est que si on écoutait Twitter, l'Écosse serait indépendante, mais alors à plus de 60%. Hein, à plus de 60%. Les gens qui étaient très favorables à l'indépendance ont voulu le dire et s'exprimer. Puis les gens qui n'étaient pas favorables, ils n'ont pas voulu le dire, mais en revanche, ils l'ont dit dans les urnes. Hein, donc ce décalage-là est constant. On n'arrive pas à prédire le succès des films avec Twitter. On peut mesurer le taux d'investissement promotionnel qu'ont fait les industries culturelles, mais ça ne donne pas un résultat très fin sur la prédiction du film. On ne prédit pas les cotes en bourse des entreprises. Enfin, bon, voilà. Il y a quelque chose qui ne tient pas, pour plein de raisons que je peux laisser éventuellement pour la discussion, mais dont l'une des plus importantes, parce que c'est elle qui m'intéresse beaucoup, c'est et qui va être au cœur du débat que je voudrais ouvrir, qui est que ce qu'on dit sur Facebook, sur Twitter, sur etc., c'est des signaux représentationnels. C'est des gens qui se montrent. Alors, on sait qu'il y a un côté de sculpture de soi, de construction d'identité, de production d'un devenir possible du sujet, que ce qu'on exprime dans ces espaces, c'est en fait, ça a l'air d'être très décontrôlé, mais en fait, c'est très calculé dans le décontrôle, on pourrait dire. Et on produit donc des représentations, et que ces représentations, elles ont, alors en tout cas pour le sociologue, elles ont énormément de sens, hein, mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est la réalité des comportements. Hein. Nous, en France, moi je cite toujours ce chiffre parce qu'il me fascine toujours. En France, quand on demande aux Français quelle chaîne de télé ils regardent, il y a 20% des Français qui regardent Arte. Puis quand on regarde l'audience d'Arte, un bon film fait 5%. Hein, mais la plupart du temps, c'est 1%. Donc il y a un décalage entre les représentations et les comportements. Et ça va me permettre d'entrer dans le sujet que je voudrais aborder. C'est ce décalage, moi il me semble, enfin mon diagnostic, c'est le cœur des transformations de nos sociétés sur lequel justement les calculateurs sont en train d'essayer de s'asseoir. Hein. C'est-à-dire de se dire, nous pensons comme des sujets constamment en construction, curieux, cosmopolites, ayant une autonomie de choix et d'action, de possibilités qui est absolument inédit dans nos sociétés aujourd'hui. Hein. Et donc, cette idée du sujet autonome, hein, du sujet souverain, de ses propres choix, etc., est devenue le cœur de cette, on pourrait dire, usine expressive qui se manifeste constamment sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire que la réalité de nos pratiques soit toujours conforme à ce qu'on exprime, et qu'il y a une tension qui se crée. J'ai cité Arte tout à l'heure, mais il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est une étude de gens de gestion, de chercheurs en gestion, qui est excellente, absolument excellente. Ils avaient fait sur un Netflix australien. Hein. Et donc il y avait une wish list. Les gens disaient les films qu'ils aimeraient voir, et puis eux, évidemment, ils avaient les films que les gens avaient commandés, ils avaient vraiment vus. Et alors, bon, mais je dis ça en moquant, mais en même temps, je pense que c'est au cœur de choses qui nous déchirent tous, hein, de façon assez profonde. Donc, les gens voulaient voir des films d'Antonioni et faire une intégrale des films d'Ozu, un Ozu tous les soirs. Voilà. Mais ce soir, ils étaient trop fatigués et ils ont regardé un blockbuster américain. Bon, je pense que cette histoire. Voilà. Il y a quelque chose entre les représentations et les comportements de façon forte. Et il me semble que c'est ce qui amène la quatrième famille, et c'est là-dessus que je voudrais gloser un peu maintenant. C'est que les gens des big data, les gens sérieux des big data, il y a plein de prophètes partout, et ils insistent sur un point qui est très central, c'est qu'on ne peut pas bien prédire avec les représentations des gens. Il faut regarder ce qu'ils font. Et il y a quelque chose qui est très central dans le paradigme qui se met en place, c'est que c'est behavioriste, comportementaliste. Ce qu'il faut, c'est savoir avoir une trace de l'activité réelle des gens. Ce qu'ils racontent sur Facebook, sur Twitter, c'est important et c'est intéressant, mais ça, on va le laisser aux sociologues, aux psychologues, à ces gens-là qui s'intéressent à la société. Mais si on veut prédire quelque chose aux gens, il faut la trace de navigation, il faut le ticket de caisse du supermarché, il faut le compte à la banque avec les achats, il faut le mobile qui suit la géolocalisation des individus. Amazon, ça va être depuis très longtemps les livres qu'on achetait. Mais ça ne suffit pas. Il faut que la liseuse nous dise à quelle vitesse ils lisent les livres, s'ils ont terminé les livres, s'ils ont sauté des chapitres. Hein. Donc c'est vraiment de suivre la trace du comportement. Parce que le comportement ne ment pas. Enfin, je mets les guillemets, mais l'idée qui est très centrale, c'est que là, on a quelque chose à calculer qui peut donner d'autres types de résultats. Et c'est ce qui fait la quatrième famille, qui n'est plus autorité, popularité, autorité ou réputation, mais qui vient sur la prédiction personnelle. Et donc, d'une certaine manière, moi, mon regard sur ce monde des big data, c'est qu'on a ces trois autres familles sont toujours très présentes, elles sont toujours très centrales. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut les défendre, hein, notamment défendre l'autorité. La vague actuelle, le débat qui occupe beaucoup les médias et beaucoup de rapports de consultants, c'est sur cette quatrième famille qui vient dire on va personnaliser le calcul pour l'individu et on va le faire à partir de traces comportementales. On va laisser le reste de côté. On va peut-être un petit peu intégrer le reste, mais le reste ne sera qu'une variable secondaire. Hein. Une variable à expliquer par rapport à la variable explicative qui va être le comportement dans ce dispositif-là. Et elle vient mettre ça dans le dispositif avec... Je fais un raccord qui est exagéré hein, dans la réalité, hein, mais qui m'aide à raconter mon histoire, avec une transformation des techniques statistiques qui est assez centrale, qui est la mise en œuvre de techniques dites d'apprentissage, machine learning, qui deviennent dominantes. Alors, toute la prédiction ne relève pas de techniques d'apprentissage. L'apprentissage n'est pas toute l'intelligence... Enfin, l'apprentissage n'est qu'une partie de ce qu'on appelle aujourd'hui intelligence artificielle, mais je vais y revenir. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je vais vous dire, mais il me semble qu'il y a quelque chose de très central dans cette idée que il y a une sorte de chose qui ressemble à une nouveauté, qui est le machine learning, l'apprentissage, et qui devient très dominant. Et si on avait, enfin moi si j'avais à spécifier la nouveauté du monde dans lequel on entre, du point de vue en tout cas de l'histoire des sciences et des ruptures technologiques, c'est apprentissage, machine learning. Alors, machine learning, je vous le fais vraiment pour de façon simpliste, hein, ce qui est au cœur de... Alors d'abord, ce n'est pas nouveau du tout. Hein, c'est tellement peu nouveau qu'une partie des algorithmes dits d'apprentissage, une partie seulement, mais c'est quand même une partie très dominante, sont massivement bayésiennes. Alors Bayes, ceux qui ont des souvenirs, hein, Révérend Bayes, 17e siècle, hein, laisse un papier avec une formule qui va être reprise. En fait, c'est surtout Laplace en fait, en France qui a reconstruit l'algorithme. La théorie, et il met en place une forme de statistique. Alors ça, c'est vraiment passionnant dans l'histoire des sciences. Je ne sais pas si je suis dans le sujet, là, mais dans l'histoire des sciences, c'est absolument passionnant. Dans l'histoire des statistiques, on pourrait dire, là aussi c'est caricatural, mais ce n'est pas faux. Voilà, puis il y a de bons livres qui racontent cette histoire. Il y a eu, hein, on pourrait dire, une sorte d'orthodoxie dominante qui s'est installée au 19e siècle, avec Quetelet, avec Fischler, avec ce qu'on appelle le paradigme fréquentiste, hein, et qui va dominer jusqu'au modèle de régression logistique des économistes aujourd'hui. L'idée qu'on fait des hypothèses, on vérifie la corrélation entre deux variables, on essaie d'évacuer le bruit des autres variables, surtout pour avoir la corrélation la plus pure d'un modèle initial qu'on a posé sur les variables. C'est quand même la notion dominante du calcul statistique qui s'est mise en place. Cette tradition fréquentiste a toujours méprisé, et vraiment méprisé, il y a des signes multiples de ce mépris, parce que c'était une guerre interstatisticienne, la tradition bayésienne, en la dénigrant d'une injure terrible, qui est de dire elle fait des probabilités subjectives. Et donc ce qui a choqué tous les fréquentistes, qui choque encore une partie des fréquentistes, c'est l'idée qu'on fasse des calculs avec une probabilité subjective. Alors qu'est-ce que c'est qu'une probabilité subjective? C'est le cœur de la formule de Bayes. C'est, je ne sais pas si un événement va arriver, mais je dis il y a 30% de chances qu'il arrive. En fait, j'ai aucun moyen de le savoir. Mais je le place en entrée de l'équation, et les événements ultérieurs vont me permettre de réviser le pronostic initial que j'ai posé. Hein. Et donc, on voit bien le type de raisonnement de la formule de Bayes, c'est extrêmement simple, c'est de dire, le maire de New York, le 11 septembre 2001, on lui apprend qu'il y a un avion qui est rentré dans une tour. Il dit 90% de chance qu'il y ait un accident de trafic aérien. Et puis, un quart d'heure après, on lui amène une nouvelle information. Oui, il y a un deuxième avion dans une tour. Et là, le pronostic initial, il doit le réviser. Et non, il y a 90% de chances que ce soit un acte intentionnel et délibéré, et 10% de chances que ce soit un accident de trafic. Donc, les événements actuels sont des moyens de réviser les conditions initiales de la probabilité qui a été mise en place. Et cette idée que les événements nouveaux transforment les modèles qui nous permettaient de faire les hypothèses sur le réel, c'est exactement ce que mettent en place les mécanismes dits d'apprentissage. Quand on dit que la machine devient autonome ou intelligente, avec 30 guillemets, c'est précisément qu'elle révise elle-même ses propres règles en fonction d'événements nouveaux qui sont arrivés, qui fait qu'une certaine manière d'organiser la corrélation entre les variables peut être modifiée par le fait que le réel, les événements nouveaux, sont des événements qui l'obligent à recomposer la manière dont elle a organisé dans les règles les événements initiaux. Et donc cette idée que tout d'un coup, l'algorithme ou l'automate puisse apprendre tout seul, alors il apprend d'événements nouveaux qui sont venus, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, les méthodes d'apprentissage nouveaux qui se développent. Alors ces méthodes d'apprentissage, elles existent depuis la place. Elles ont été un peu minorées dans toute l'histoire de la statistique. Les actuaires, en fait, eux qui sont des gens de probabilité subjective, ont maintenu cette tradition en vie pendant très longtemps. Elle s'est un peu redéveloppée au début du XXe siècle. Il y a des économistes qui s'en sont servis notamment. Mais surtout, le problème, c'est qu'on ne pouvait pas la déployer à grande échelle parce qu'elle demande des capacités de calcul énorme, puisque qu'est-ce que fait en fait le système apprenant? C'est qu'il n'utilise pas une hypothèse initiale qui est formulée par le chercheur ou par l'économètre qui fait un modèle de régression logistique pour poser deux hypothèses et corréler ces variables, mais elle teste toutes les hypothèses possibles. On crée ce qu'on appelle un espace d'hypothèses, et ces espaces d'hypothèses, c'est qu'on évalue toutes les hypothèses possibles entre toutes les variables. Et donc ça demande un temps de calcul absolument considérable. Il y a plein d'hypothèses qui n'ont aucun sens. Hein. C'est pas grave, on les fait tourner. Et puis ensuite, on va couper dans les forêts, on va faire des forêts aléatoires, puis on va couper dans les forêts, puis on va prendre l'arbre de décision qui donne les choses les plus efficaces. Les nouveaux calculateurs permettent tout d'un coup de redonner vie à cette vieille idée bayésienne de se dire que la machine pourrait elle-même faire les hypothèses plutôt qu'on demande aux chercheurs de les faire. Je caricature, c'est en fait la réalité est plus complexe que ça. Mais en tout cas, ça crée beaucoup de débats sur l'idée que tout d'un coup, c'est plus celui qui programme l'algorithme qui place dedans, comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, une intention, un principe pour organiser le monde dans une forme particulière. C'est que le chercheur ou le designer de données, il prend des données, il pose l'algorithme dessus, il lui dit teste des hypothèses, et puis à la fin, on va prendre la meilleure formule possible. Ce qui veut donc dire qu'il faut qu'à la fin, on ait un moyen de vérifier quel est le bon résultat. Hein. Et ça, c'est un des enjeux absolument centraux des algorithmes, et si on y réfléchit bien, ça met en doute beaucoup de débats sur l'intelligence artificielle. C'est que, on arrive bien à le faire quand on a une manière de vérifier à la fin, mais si on n'a pas de manière de vérifier à la fin, on ne peut pas mettre en place cette boucle dans lequel les règles se transforment avec les principes. Alors, moi je crois, je le dis naïvement, de façon un petit peu simple, c'est ça qui est en train d'arriver, et c'est ça qui est en train de poser plein de questions assez passionnantes pour un sociologue. Alors je voudrais essayer d'en détailler quelques-unes. La première, c'est... que... à prédire des comportements, ces techniques, en fait, me semble-t-il, hein, après il y a beaucoup de variations, et dans le débat public, on sent qu'on a beaucoup cette idée que tout d'un coup l'algorithme voit le futur. Hein, ça, c'est très très présent, cette idée. Alors, toujours nourrie, ça, c'est, moi j'aime beaucoup la science-fiction, mais je pense que c'est vraiment le plus mauvais prospectiviste qui soit, c'est les films de science-fiction. Ça, vraiment, ça, c'est un truc, ils se trompent tout le temps. Voilà. Les voitures devraient voler, vraiment. Voilà. Donc, on a le modèle de Philippe K. Dick, du pré-cog, hein, dans la tête, c'est-à-dire qu'il a vu le crime avant même que le criminel ait une intention, hein, d'agir. Et donc, c'est cette idée que la prédiction, ce serait voir le futur des gens avant même que. Hein, et donc, on sent que ce discours nous entoure constamment. Alors, qu'est-ce que font ces techniques statistiques? Elles prennent le passé pour faire la pente du futur. Hein. Le calcul de recommandations, de filtrage collaboratif, toutes ces techniques qu'utilisent les traces numériques, elles prévoient le futur de la pente du passé. Et donc, et l'air de rien, c'est toujours comme ça. Donc, si on est là, et elles prennent la pente du passé pour une raison que le sociologue connaît bien. Alors là, et c'est là, d'une certaine manière, moi je le vois souvent comme ça, c'est le moment où le sociologue devient complice, enfin la tradition sociologique devient complice du nouveau pouvoir algorithmique, c'est précisément sur ce point-là, c'est que, d'une certaine manière, ces nouvelles techniques calculatoires, comme les sociologues, ne croient pas beaucoup à la liberté des individus. Voilà. Cette idée que nous serions variés, que tous les choix nous seraient possibles, que nous serions constamment à nous réinventer nous-mêmes dans des pratiques sociales qui seraient différentes, que nous serions justement cette représentation que nous faisons beaucoup de nous-mêmes, de l'individu souverain, de ses propres choix, on pourrait dire que le sociologue sait qu'il y a, mais en ce sens il est spinoziste, que nous sommes assez déterminés, qu'il y a des régularités, qu'il y a des contraintes qui pèsent sur nous, qu'on a un autre algorithme que Pierre Bourdieu appelait l'habitus, qui est assez central, et qui fait que nous avons des routines, nous avons énormément de régularités. Et si on regarde la société de près, évidemment il y a de la diversité dans nos actions, mais enfin on fait toujours les mêmes trajets, les gens qui aiment telle musique n'aiment pas telle autre type de musique, c'est les goûts culturels sont incroyablement organisés et récurrents et assez réguliers. Quand on a des amis de droite, quand on est de droite, on a des amis de droite, quand on est de gauche, on a des amis de gauche, enfin, bon, toutes ces choses qui font qu'il y a des déterminations dans les comportements qu'on peut avoir. Quand ces déterminations sont, d'une certaine manière, régies par des sortes de régularités classiques, observé par la sociologie, mais les gens du marketing aussi observent ces régularités de façon régulière, ben, si on a les bonnes traces, il est probable que les algorithmes puissent faire un bon calcul, parce que partant de ces régularités, ils ont de bonnes chances de faire une bonne prédiction du comportement futur des individus. Et donc, il y a déjà un premier paradoxe dans cette affaire, c'est que finalement, c'est notre régularité qui fournit à ces calculateurs les chances de faire des bonnes prédictions. Et que si on était vraiment surprenant, et si on se surprenait soi-même constamment, il est probable qu'on se laisserait très mal calculer par ces calculateurs quand ils produisent des bons éléments. Alors je reviendrai là-dessus, mais je voudrais venir sur un deuxième élément qui est lié au cœur technologique de cette transformation du calcul, et qui est un peu abstrait, mais alors, comme vous avez déjà... lu une histoire d'intelligence artificielle. Alors, je pense que je ne vais pas donner la même parce que les histoires sont très variées, c'est très compliqué. Je vais faire un bref version caricaturale de l'histoire de l'intelligence artificielle, parce qu'il me semble qu'on est au cœur des points de débat que je voudrais introduire tout de suite. Ma manière de le raconter, c'est une histoire passionnante, c'est une histoire fascinante, c'est une histoire absolument extravagante, cette aventure. Et c'est vraiment une aventure de l'humanité, en fait, pour le dire. On pourrait dire que, alors moi, ma manière de le dire très vite, c'est qu'elle est née trois fois, elle est déjà morte deux fois. Elle est née avec la cybernétique dans les années 50. C'est plutôt un projet de papier, magnifique, très compliqué, mais voilà, ça n'a jamais rien donné. Elle est réapparue dans les années 80. Et alors là, il faut que je m'y arrête un petit peu, parce qu'il me semble qu'on est en train d'interpréter l'intelligence artificielle nouvelle avec les catégories des années 80. C'est l'erreur qu'on commet. Dans les années 80, l'intelligence artificielle s'appelait système expert. Elle était massivement symbolique. L'idée centrale, et je caricature parce qu'évidemment il y a beaucoup, beaucoup d'éléments très différents, c'était de dire, on va créer des automates auxquels on va apprendre et donner des règles symboliques qui reproduisent la manière dont nous nous représentons le fonctionnement du raisonnement humain de façon symbolique, ce qui n'est pas nécessairement ce que les neurobiologistes sont en train de nous dire sur le fonctionnement du cerveau humain, mais la manière dont nous nous représentons ce qu'on appelait le raisonnement naturel. On va le coder, et ce code, on va le donner à l'automate artificiel, ordinateur, et il va le reproduire. Alors, système expert typique, c'était de prendre un médecin, hein, et puis de lui faire décomposer tous les gestes diagnostiques qu'il faisait. Tu regardes la température, tu regardes le pouls, tu fais ça. Et alors, si tu fais ça, tu fais ça. Mais si tu as telle donnée, tu fais ça. Et on fait un arbre symbolique de l'ensemble des décisions du système expert qu'on va ensuite raffiner et calculer avec de la logique. Hein. C'est un endroit où la logique a joué un rôle central dans l'idée qu'on peut, on peut construire les représentations sous forme de règles qu'ensuite l'automate va apprendre, va mouliner pour essayer de produire des résultats. Alors, ce qui est frappant dans l'histoire de cette aventure de l'intelligence artificielle, c'est que ce modèle a globalement échoué dans les années 90. Il a échoué massivement, les financements sont tombés, les programmes de recherche se sont arrêtés, les critiques ont été extrêmement nombreuses. Et parmi les 1000 critiques qui sont levées contre ces systèmes, l'une des critiques centrales, c'est ça qui m'intéresse, c'était de dire le problème de ces affaires-là, c'est le contexte. C'est que l'air de rien, on n'arrive pas à décomposer tout l'ensemble du raisonnement naturel que produit un expert et l'expliciter, le mettre sous forme de règles et ensuite faire apprendre ces règles à la machine qui elle-même peut apprendre des propres règles hein, dans les meilleurs systèmes qui ont été faits dans les années 80. Mais il y a quelque chose qui résiste, c'est la diversité du réel. C'est que le réel, il est toujours plus varié, c'est qu'il est polysémique, c'est qu'il y a des ambiguïtés, c'est qu'il y a des différences, c'est qu'il y a de l'inattendu, c'est qu'il y a beaucoup trop de choses qu'on n'arrive pas à mettre, et notamment il y a du sensible, hein, et de la sensation, c'est le critique de Varela par exemple, et que ça, on ne peut pas le mettre dans les règles des systèmes experts. Je caricature l'histoire, mais c'est juste pour servir mon propos. Ça a massivement échoué, cette affaire, et en revanche, les gens qui font ces systèmes-là continuent à travailler et continuent à faire des choses de plus en plus performantes, mais un troisième naissance est en train d'arriver, enfin en tout cas une troisième qualification d'intelligence artificielle est en train d'arriver, et qui vient sur un autre mode, hein, parce qu'elle, elle vient des statistiques bayésiennes, elle vient du traitement massif des données, et elle vient dire... On va faire autre chose que faire des règles. Alors, en gros, ça s'est vraiment vu, c'est dans et je vous conseille d'y aller, parce que depuis un mois, il s'est passé un truc incroyable sur Google français, hein, de la traduction automatique. La traduction automatique, dans le modèle des années 80, qui, alors vraiment, le taux de progression était complètement plat, hein, le modèle des années 80, c'était on va apprendre aux ordinateurs le vocabulaire, la syntaxe, la grammaire, langue A, langue B, langue de transfert, et puis souvent on passait par l'anglais, donc on retransférait tout, enfin bon, ontologie, système de règles, etc. Très très habile, hein, une intelligence extrême dans la mise en place des outils, mais ce truc ne marchait pas. Hein. Années 90, IBM puis Google disent on enlève les règles, hein, on enlève ces trucs, dictionnaire, ontologie, syntaxe, on ne cherche plus à faire une sorte de cathédrale de ces grands systèmes d'articulation entre des règles, des symboles et des conditions logiques, on fait des statistiques. Et qu'est-ce qu'on fait avec les statistiques? Ça veut dire qu'on va faire rentrer des contextes. Et le contexte dans le monde de la traduction, c'est de prendre des textes traduits. Donc Bruxelles produit pour Google, c'est formidable. Un mot, puis en 25 langues. Deux mots, trois mots, quatre mots, quatre mots. Et donc on fait la statistique. Quand j'ai ces trois mots en langue A, eh ben j'ai 125 000 occurrences en langue B, et puis je refais un calcul de probabilité, quel est le plus probable. Dans le contexte, je regarde les mots à côté, je regarde comment est formée la phrase, et je mets un score de probabilité pour dire il y a plus de chances que ce soit trois mots, quatre mots, ils en sont à cinq mots maintenant. Hein. Et donc on fait des calculs probabilistes dans lesquels... Ce que j'essaye de faire passer, c'est ce qu'on rentre dans la machine, c'est plus la règle, c'est plus tout ce système très, du raisonnement naturel avec ces magnifiques règles. Il y a toujours des règles, hein, mais c'est des données. Parce que les données ont fait rentrer la variété des contextes qui était le problème de l'intelligence artificielle. Alors, c'est ce qui me fait dire que cette nouvelle forme de calcul est massivement statistique. Il est massivement probabiliste. Hein. C'est-à-dire que jamais ça ne traduira parfaitement la langue. Parce que ça va faire des probabilités. Mais quand même, ça fait des progrès absolument considérables dans la traduction automatique. C'est toujours très mauvais, mais ça fait des progrès absolument considérables dans la traduction automatique. Et ce changement, c'est un vrai changement de paradigme. Et donc, moi, je pense que dans le débat sur l'intelligence artificielle, on est en train de mettre les catégories, nous, mentales qu'on a de la deuxième, sur ce qui est en train d'arriver. Alors que ce que font ces gens, c'est des statistiques. extrêmement forte avec énormément, énormément de données. Et c'est aussi ce que font, mais je n'entre pas dans ce débat, tous les gens qu'on appelle réseau de neurones, deep learning. Hein, deep learning, c'était, je vois, c'est une histoire qui est complètement passionnante. C'est créé en 1943 par mon culoc. C'est le premier perceptron 57-59 par Rosenblatt. C'est une seule couche de réseau de neurones. Les gens de la seconde intelligence artificielle, Minsky et Papert, vont écrire un livre entier pour dire que ça ne marchera jamais. Donc on va mettre les deux écoles qui ne sont pas d'accord, entre elles. Et puis les neurones, on va mettre plusieurs couches de neurones, on va faire la convolution, on va organiser le truc. Et puis tout d'un coup, des gens qui étaient très méprisés, hein, moi on me racontait tout à l'heure qu'à la thèse de Yann Lequin, hein, les gens ne croyaient pas du tout à ce qu'il était en train de faire. Ils pensaient que c'était vraiment une voie de garage, une solution complètement idiote, hein, cette histoire-là. Aujourd'hui, Yann Lequin, il dirige l'intelligence artificielle de Facebook. Il a mis en place une partie de l'algorithme de la convolution sur les réseaux de neurones. C'est ce qui est en train de craquer le truc sur les images. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les images? Ben, on prend des données extrêmement massives. On connaît une partie de ces données, elles sont étiquetées, l'apprentissage reste globalement supervisé. On sait qu'il y a un chat sur 10 000 images, on en a 100 000. On fait tourner les neurones qui vont apprendre la forme chat, et la manière dont les neurones vont apprendre la forme chat échappe complètement à l'humain, à l'individu, à celui qui les a codés. C'est-à-dire qu'on ne voit plus le chat dans les neurones. Alors, encore que, on est en train de trouver des techniques pour essayer de le voir, mais il y a des petits neurones qui prennent la forme de la queue, il y en a qui ont la moustache, il y en a qui ont l'image globale, il y en a qui ont un truc précis sur la couleur. Voilà. Donc en fait, ce que dans la deuxième intelligence artificielle on appelait la règle symbolique, qui était belle comme un arbre de décision, très clair, là devient des tout petits bouts de forme, de pattern, qui sont déposés à des endroits, des réseaux de neurones, qui se sont auto-réglés entre eux, pour essayer d'organiser la forme chat. Et puis une fois que le réseau de neurones a appris le chat sur les 10 000 images, mais il faut bien qu'on lui ait donné 10 000 chats pour qu'il apprenne. Hein, je dis ça parce que quand on nous dit on va faire ça pour détecter les comportements terroristes dans le réseau téléphonique et qu'on a 5 malheureux terroristes pour des traces d'apprentissage, évidemment on ne va pas faire un modèle. Hein. Donc non, parce que nous en France on a ce débat, donc c'est assez curieux. Quand on a appris la forme chat, on peut les passer la forme sur les 90 000 autres images, et là, effectivement, il est probable qu'on détecte le chat. Hein, pas tous, il y a peut-être avoir quelques chiens qui vont passer, enfin bon, vous voyez le truc. Mais ça fait des progrès absolument incroyables. C'est complètement statistique. C'est complètement statistique. C'est assez idiot, quand on regarde, par rapport à la deuxième intelligence artificielle, qui est d'une subtilité, d'une intelligence, enfin vraiment, d'une sorte de, voilà, de choses extraordinairement complexes et sophistiquées. Là, on a un truc qui est un peu, on dit force brute. Hein, force brute, c'est-à-dire qu'on fait de la stat massivement. Plus on a de données, plus le modèle s'améliore. Et puis on fait progresser. Bon, c'est ce qu'on appelle deep learning. C'est ce qui est en train de craquer beaucoup de choses, pas tout. Hein, et les gens de la seconde intelligence artificielle ont raison de se défendre contre la nouvelle, parce que là, ils sont en train de se dire, ils sont en train de faire tomber tous nos espoirs sur un modèle plus symbolique. Et c'est en train de jouer un rôle très central. Alors, si ce rôle est très central, ça a des conséquences, je crois, sociologiques importantes. Et je finis avec ces quelques points. C'est que, en passant à un mode statistique de ce type-là, on est en train de calculer la société. Alors, moi, je dis, voilà, la calculer par le bas. Hein. Et donc, et il me semble que c'est, d'une certaine manière, le constat auquel je suis le plus attaché, que je trouve le plus intéressant. Alors, je vais essayer de le dire simplement et sans entrer dans trop de détails, mais la statistique fréquentiste dont j'ai parlé tout à l'heure, celle du 19e siècle, elle est née avec les États-nations, et elle est complètement associée à l'histoire de l'État, hein, connaître la population, démographie, taux de morbidité, taux de natalité, etc. L'idée que la démographie et la naissance de la statistique se sont associées à l'idée de l'État. Et pour employer un argument qu'emploie Yana King, qui est un très bon philosophe de ces questions, elle est non seulement liée à l'État-nation, mais elle est liée à l'idée d'État démocratique. Hein. C'est-à-dire que la statistique, et ça, l'histoire de la sociologie nous l'a montré, la statistique, elle est consubstantielle, elle est apparue en Angleterre et en France, hein, et pas en Allemagne. Elle est apparue en Angleterre et en France avec comme corrélat l'idée que les individus devaient être autonomes et libres de leur choix. Hein. Et l'idée de la liberté de l'individu et de la statistique sont apparues ensemble. L'argument est de dire que c'est parce que nos comportements, la raison de nos actions, le fait que nous avons choisi A plutôt que B, n'est plus interprétable par des formes, je dirais, d'anciens régimes religieuses, le destin, le Dieu, par une sorte de commandement qui fait que nos actions sont de toute façon déterminées par une cause qui ne nous appartient pas et qui nous dépasse, et qu'il y a un déterminisme fondamental de nos actions. C'est à partir du moment où on crée un sujet, un individu responsable de ses propres actions et donc libre de ses choix, qu'on crée une incertitude sur les raisons qu'ont les gens d'agir et sur la manière dont ils vont agir. Et la statistique et l'État sont venus d'une certaine manière rattraper par le haut cette liberté de l'individu. Et ça, c'est vraiment très très bien montré. Et tout le développement au XIXe siècle de la statistique s'est appuyé sur l'idée qu'on va créer un appareil de catégories dans lequel on va pouvoir, pour la statistique sociale, on va pouvoir ranger les individus par des systèmes d'appartenance suffisamment fortes d'ailleurs pour que les individus se reconnaissent eux-mêmes dans les catégories auxquelles on les associe. Âge, sexe, territoire, profession, niveau de diplôme, niveau de revenu, etc. Toute la construction, on pourrait dire concomitante, d'abord de la sociologie, puis du marketing, ça a été l'idée que finalement les individus sont libres, mais qu'à travers leurs catégories, on arrive quand même à avoir des déterminations dans leur liberté. Et que finalement on rattrape cette liberté à travers les corrélations qu'on va produire. Les enfants de classe supérieure ont plus de chances de réussir leurs études que les enfants de milieu populaire, etc. Donc on va arriver à redécrire la société à travers les corrélations qu'on fait exister entre des catégories dans lesquelles on a glissé les individus. Et ça a été, je crois, au cœur de la construction de nos États, de la connaissance de la société, de la connaissance des marchés, tel qu'il s'est constitué au XXe siècle de façon très forte. Alors, j'insiste sur cette histoire parce qu'il me semble que la promesse, en tout cas le projet qui est derrière les nouveaux calculs, c'est de venir calculer non plus par le haut avec les catégories, mais calculer par le bas avec les traces de comportement des individus en faisant des calculs massifs statistiques comme ceux que j'ai évoqués pour la traduction automatique tout à l'heure. Et qu'il y a quelque chose d'assez original dans ce renversement, à la fois, je crois, d'inquiétant, et en même temps, on voit bien qu'une des raisons de la manière dont il rencontre quand même nos sociétés, en dépit des peurs, des craintes, notamment pour la vie privée que ça cause, c'est qu'il répond à une attente individualiste de nos sociétés. Que d'une certaine manière, tout ce thème qui parcourt nos sociétés sur la crise de la représentation, sur l'idée que les hommes politiques ou les partis ne nous représentent mal parce que nous, individus, nous pensons que nous pouvons faire les programmes pour eux, on ne veut pas qu'on décide à notre place, on ne veut pas que les journalistes choisissent l'information qu'on va lire, on préfère que ce soit l'algorithme de Facebook et des amis qu'on a choisis qui décident pour nous. Cette idée que l'individu aurait en lui suffisamment de ressources pour faire les bons choix sans que tous ces intermédiaires qui venus du haut encombrent la société de choix, de décisions et de prescriptions jugées paternalistes, elle est au cœur de toutes les formes d'expression individualiste qu'on voit apparaître dans nos sociétés. Eh bien, à cette crise de la représentation, je pense vraiment qu'il faut associer une crise de la représentation statistique. Je suis beaucoup plus que la catégorie statistique dans laquelle on m'a mis. Je suis beaucoup plus que la ménagère de moins de 50 ans. Je suis beaucoup plus que je ne sais quoi. Dans mes choix, dans mes goûts, dans mes pratiques, il y a quelque chose de singulier. Cette singularité, c'est justement cette forme d'expressivité individuelle que je ne cesse de manifester sur les réseaux sociaux. Et cette singularité, si vous la calculez bien, vous les nouveaux algorithmes, vous allez me prédire des choses qui seront beaucoup plus précises que ces calculs de média planeurs de marketing qui font des corrélations globales entre un niveau de revenu, une classe d'âge et un territoire pour essayer de nous vendre, nous passer une publicité. Et donc il y a quelque chose de nouveau qui se joue dans lequel, d'une certaine manière, comme je le dis comme ça de façon provocante, l'individualisation de nos sociétés devient complice des algorithmes de la Silicon Valley dans l'idée d'un calcul personnel, prédictif et individualisé qui se met en place. Juste pour donner un exemple concret de ce qui se joue et qui fait beaucoup parler dans le monde du marketing, c'est que les médias planeurs autrefois avaient une sorte de savoir de leur public. On leur donne un produit et puis ils essaient d'imaginer les catégories, et ils réfléchissent en catégories, les catégories du public auquel il faut destiner la publicité ou le placement du produit associé. Maintenant, une partie du modèle 20 à 30%, un peu plus maintenant, 30% du marché publicitaire sur Internet, c'est du programmatique, c'est real-time bidding, Vous cliquez sur un site web, le cookie qui est dans votre ordinateur envoie la trace de vos navigations passées à un système d'enchère automatisé. Cette enchère met en concurrence votre trace auprès de différents annonceurs qui ont eux-mêmes des bases de données absolument immenses de traces de navigation d'autres utilisateurs qui ont cliqué sur leur publicité. En fonction du calcul statistique de l'espérance, de la probabilité que vous cliquiez sur leur publicité, ils vont fabriquer un prix d'affichage. Le gagnant entre les différents annonceurs du prix d'affichage gagne le droit d'afficher sur votre page web le bandeau publicitaire affiché. Ça a duré quelques millisecondes, hein, vous n'avez rien vu. Celui qui a gagné, c'est celui dont, pour lequel votre trace a fait calculer la meilleure enchère d'affichage de la bannière publicitaire. Quand on regarde la trace de ce cookie, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre sexe, il n'y a pas votre âge, il n'y a pas votre CSP, il n'y a pas votre niveau de revenu, il y a la trace de vos navigations. Et donc on voit bien que ce qui devient l'enjeu du calcul prédictif, et disent les publicitaires, ça mériterait une enquête plus rigoureuse, mais disent les publicitaires, c'est beaucoup plus efficace que toutes les techniques de media planning, etc. Alors, beaucoup plus efficace, ça veut dire qu'on passe de 0,01% à 0,02% de calcul. Hein. Mais ça fait 100%. Hein, parce que généralement, ils disent 100% dans ces cas-là. Le calcul prédictif s'appuie sur une trace de comportement en prétendant éviter cette affaire. Donc voilà, je crois que c'est le cœur de ce qui se joue aujourd'hui de façon... Enfin, en tout cas, moi, de ce qui m'intéresse dans ce qui se joue aujourd'hui, c'est l'idée qu'on peut prédire par les comportements. C'est pas toujours prouvé, c'est pas toujours sûr. Et il y a une idée... Enfin, voilà, je vais peut-être finir avec... finir juste avec ça... Qui serait une sorte de paradoxe. Je dis ça pour notre discussion tout à l'heure. C'est que la société du 19e que j'ai caricaturée avec la naissance de la sociologie, Durkheim, du marketing, etc., c'est une société dans laquelle finalement les catégories faisaient tenir la société. C'est un grand mot d'Alain Desrosières, magnifique historien sociologue des statistiques, c'était de dire les catégories, ça fait tenir la société. Et je crois que pour les conventions collectives, les conventions professionnelles, les qualifications au travail, etc., il y a plein de catégories qui jouent un rôle absolument central d'identification des individus qui font tenir la société. Et qu'il y avait une régularité suffisamment normale des comportements derrière les catégories associées pour que ça produise une description et un tabou de nos sociétés qui soit jugé suffisamment pertinent pour l'analyser et la comprendre. Hein. Et d'une certaine manière, moi, le diagnostic que je ferais, c'est qu'on entre dans un moment de nos sociétés dans lequel, du fait de l'individualisation des comportements, du fait en fait surtout de la diversité des opportunités qui sont faites à chacun, et là le numérique a apporté hein, à un lecteur, à un consommateur, à un site de e-commerce, de musique, etc., un accès à une information et à des biens et des services comme jamais. Du coup, la variabilité des comportements devient beaucoup, beaucoup plus forte. Et que, d'une certaine manière, ce qu'essayent de recalculer par le bas en nous rattrapant les algorithmes, en prenant des traces de comportement, c'est précisément des individus qui sont devenus de plus en plus incontrôlables. Hein, les gens du e-commerce en B2C passent leur temps à dire que la question de la fidélité de la clientèle devient très, très centrale. C'est-à-dire que dans le monde des catégories, les clients étaient à peu près fidèles, ils étaient réguliers, etc., on leur mettait la pub au bon endroit, si on avait bien ciblé, ça marchait. Mais qu'avec ces variabilités de comportement liées aux transformations de l'offre, il y a une individualisation et une singularisation des parcours qui est si fort que du coup, on essaye de ce qu'on n'arrive plus à rattraper par le haut, on essaie de le rattraper par le bas. Et on essaie de le rattraper par le bas avec cette technique. Je ne sais pas si j'ai bien décrit la technique statistique, mais vous voyez que ce qui joue très central, c'est de les données deviennent le contexte comportemental dont on a besoin pour affiner le calcul. Hein. Et dans le modèle idéal, quand ça se passe bien, je vais prendre l'exemple de la musique, parce que c'est celui que je connais le mieux et qui est le plus simple, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, la sociologie de la culture, c'est vrai que il y a une structuration très forte qui est liée à la routine, à la socialisation, aux habitudes créées, etc., qui fait que nos goûts culturels ils sont structurés. Hein. On peut être très éclectique, mais à l'intérieur de cet éclectisme, on voit des structures. Et on sait les décrire. Et ces structures, pendant très longtemps, les travaux de Pierre Bourdieu ont beaucoup construit leur réputation dessus. C'est qu'effectivement, il y a une distribution par le niveau de diplôme, hein, qui est la bonne variable. Il y a une variable autour du diplôme qui crée des corrélations entre un certain nombre de goûts et de pratiques culturelles. et les comportements des individus. Mais bon, cette corrélation, elle est toujours là. Les gens des enquêtes sur les pratiques culturelles vous la montreront toujours. Elle est toujours là, mais en même temps, il y a tellement de variétés d'offres, il y a tellement de situations et de contextes qu'il y a des moments où on sort du modèle. Hein. Il y a des moments où on sort de nos régularités. J'ai plutôt l'habitude d'écouter la même musique, et ça, les algorithmes de Deezer, de Spotify, ils le savent très bien. Et ils fonctionnent, ceux qui les utilisent, ils en fait montrent. Ça marche plutôt bien. Mais ce matin, ma mère m'a téléphoné, je me suis fâché avec ma copine, il fait beau, il fait pas beau, etc. Il y a ces petites variables qui viennent faire bouger quelque chose dans le choix. Moi, je pense que le rêve secret des nouveaux algorithmes, c'est précisément de se dire, on connaît la structure globale, le passé définit le futur, et ça marche à peu près. Mais à l'intérieur de ça, il peut y avoir plein de variables conjoncturelles qui est lié aux nouvelles incertitudes que l'entrée dans une économie de l'abondance et d'offres fait que les individus ont des variations de comportement de plus en plus fortes, qui est justement cette chose qui n'est pas calculée et qui a priori n'est pas calculable, le coup de fil de ma mère, la fâcherie avec mon ami, le temps qu'il fait. Mais leur rêve, c'est de le mettre dans l'algorithme. Hein, et de se dire, ça va avoir un poids très très faible, mais ça peut jouer un tout petit rôle. Hein, les algorithmes de prédiction policière, qu'on en parle beaucoup, prêt de Paul, bon, c'est le même modèle, c'est exactement ce que je vais raconter. Hein. Prêt de Paul, c'est un truc qui, pour n'importe quel criminologue, ne surprend pas. Les crimes ont lieu au même endroit, il y a une régularité des crimes. Quand on a été victime de crime, il y a deux fois plus de chances qu'un autre qu'on soit à nouveau victime d'un crime. Enfin, toutes les enquêtes de victimologie nous l'ont montré. C'est un endroit où on sait qu'il y a une régularité. Si on a enregistré toute la base des crimes sur un quartier bien géolocalisé, on sait dire aux patrouilles policières où elles doivent se trouver, parce que les chances estimées statistiquement que quelque chose arrive à cet endroit-là sont beaucoup plus fortes du fait de l'histoire criminelle précédente. Alors, ça marche bien, et ça marche bien, mais en même temps, ça enfonce une porte ouverte, mais ça aide à réguler ces systèmes, puisque maintenant, comme ils changent les policiers de commissariat tout le temps, il n'y a plus les habitués, ceux qui sont là depuis 40 ans, qui connaissent leur quartier par cœur, qui ont fait des maraudes partout, et donc qui savent ce que leur dit l'algorithme, qui le savent d'une certaine manière par corps, au lieu de le savoir par calcul. Mais ce qu'essayent de mettre en place les nouvelles techniques, et là on voit bien que c'est leur défi actuel, c'est de se dire, bon, ça on sait, c'est régulier. Mais c'est vrai qu'il y a du contexte, il y a de l'accident, il y a de la réalité, etc. Et du coup, il rentre dans l'algorithme, il fait beau, il fait pas beau, quelle est la vitesse de changement des feux rouges, quelles sont les heures d'ouverture des magasins, toute une série de variables. Quel est l'ensoleillement du trottoir, des variables dont le taux de corrélation, quand on regarde la structure statistique, elle est nulle. Hein. Et autrefois, dans la statistique fréquentiste, c'est justement toutes ces variables qu'il faut effacer, parce que précisément leur contribution au facteur, comme on dit, est beaucoup trop faible pour qu'elle soit intéressante. Là, on va garder toutes les contributions au facteur, même si elles sont minimes, parce qu'on se dit que dans certains contextes, tout d'un coup, le facteur soleil, le facteur ouverture peut jouer dans le modèle statistique. Alors je crois que, enfin, quand moi je discute beaucoup avec eux, le rêve des big data, c'est cet ajout de la variable secondaire qui tout d'un coup pourrait jouer. On ne peut pas le modéliser, mais si on a beaucoup de variables et qu'on fait tourner de l'apprentissage, on peut arriver à en faire quelque chose. Voilà, j'ai beaucoup parlé et divagué, mais j'espère que je ne suis pas complètement perdu. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Clair, c'était très dense et je pense que tu as ouvert plein de questions en fait, à la fois philosophiques et sociologiques très, très profondes et très pertinentes. Donc on va pouvoir en débattre après la pause, mais avant peut-être d'y passer, je voudrais quand même te poser une question. Parce que au-delà de toutes ces questions que tu as ouvertes au travers de ton discours, qui montrent bien, à mon avis, c'est un des points centraux, à quel point nous sommes complices, tu l'as dit à plusieurs reprises, de toute cette évolution des algorithmes. En même temps, je pense que nous nous sentons tous, à la fois en tant que citoyens ou comme chef d'entreprise ou responsable d'entreprise, un peu dépourvus par rapport à l'évolution de ces algorithmes. on les voit comme étant, je ne sais pas moi, définis dans la Silicon Valley ou quelque part de cet ordre-là. Donc, que pouvons-nous faire, nous, en tant que citoyens, ouais, et au niveau des entreprises, par rapport à cela? Devons-nous faire quelque chose? Que pouvons-nous faire? Alors, je sais que tu n'as pas de réponse directe à cela, et que c'est précisément aussi de cela dont nous pourrons discuter. Mais peut-être, toi qui passes ta vie à réfléchir à tout ça en tant que sociologue, te poser une simple question: en quoi est-ce que tes connaissances de cette matière t'ont amené à changer tes propres comportements vis-à-vis de tes algorithmes ou tes comportements, je vais dire, du quotidien? Est-ce que tu pourrais déjà répondre à cela? Ça pourra ouvrir le débat par rapport
voilà,
à sur comment...
Voilà, on garde comment faire voilà, pour voilà. Le débat. Alors je parle de moi. Mais c'est-à-dire qu'à force de les fréquenter, je pense qu'on... Mais d'une certaine manière, c'est aussi ce que je propose comme une sorte de thérapeutique collective. Hein. En fait... Bon, dans le contexte qui se crée, c'est qu'on a l'impression que ça nous tombe dessus, qu'on ne peut rien faire. Hein. Ouais. En fait, on peut faire plein de choses. Et la première chose, moi, que je fais sur moi, c'est de se désenvoûter. C'est-à-dire ne pas y croire. Mais moi, je les aime beaucoup, hein, vous l'avez sans doute senti, mais c'est de ne pas croire qu'ils sont intelligents. Au sens qu'on donne à intelligent, on peut garder intelligent, mais c'est de ne pas croire que dans le calcul qui arrive vers moi comme ça, avec cette sorte de force de dire « mais tu dois faire ça, tu vas faire ça, c'est ça qui est bien pour toi », etc., de dire « il y a juste une procédure statistique derrière qui a fait une estimation et son taux d'estimation, c'est que c'est plutôt ça que ça ». Et dès qu'on a cette idée que ces calculs sont procéduraux et qu'ils ne sont pas substantiels, moi les catégories que j'utilise, c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on a, à l'égard de ces téléchis, des automatismes, on a l'idée d'une substance, d'un jugement substantiel, alors qu'il ne faut que des calculs procéduraux. Alors un calcul procédural, j'ai démontré, ça peut être extrêmement fort, extrêmement efficace, mais si on... Les procédures, des fois, elles ratent leur coup, quoi, parce qu'elles ne calculent pas le contenu. Elle me dit, c'est cette information, mais elle ne l'a jamais lue, cette information, elle ne la comprend pas. Mais elle a utilisé plein de métadonnées qui font que statistiquement, cette information ressemble plus au type d'information que d'autres métadonnées sur mes comportements, de manière. Bon, bah, c'est bête. Hein. Donc, les utiliser. Moi, je les utilise beaucoup. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, mais les utiliser de façon instrumentale, parce que ce ne sont que des instruments. Ça permet, je trouve, d'avoir un rapport plus sain et du coup beaucoup plus stratège et d'en profiter beaucoup mieux. Et donc moi, ce que je m'applique à moi-même dans ce type de situation, c'est ce petit rythme de désenvoûtement. Par ailleurs, quand même, mais là, on garde ça peut-être pour le débat, la navigation privé, l'utilisation des outils de Framasoft, en tout cas avec mes étudiants, etc., le plus possible, l'idée de se dégoogliser est aussi quelque chose que mon enquête m'a... Je ne suis pas du tout complètement dégoogalisé, hein, évidemment, on est un peu prisonnier de ça, mais l'idée d'être le plus attentif possible à toutes les alternatives qui ont été posées est aussi une pratique voilà, que j'essaie de...
Il faut préparer au débat, parce que, à un certain moment, vous avez parlé tout au début, enfin, plutôt ma question, c'est, est-ce qu'il y a encore une intention dans la calculatrice et où est-elle?
Là, on rentre vraiment déjà dans le débat.
Oui.
Je propose qu'on la réserve pour après.
Parce que, oui, il faudrait savoir si on l'avait eu avant.
Oui, et maintenant, dans cette...
Oui, il y a une
intention. Ce monde statistique, mais voilà.
Il y a une intention procédurale. C'est là la distinction, mais
on va voir. Merci beaucoup. On va passer à. Merci.